les 23 heures.
Parlons vrai. 22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
On continue à évoquer la zone ORL avec Michel Oudoul, fondateur de l'Institut français de Tchiatsu et auteur de notamment « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » aux éditions Albin Michel. On va donner la parole à Jean-Marc qui patiente. Mais d'abord, je voudrais la réponse à ma devinette. Comment faire du rodéo quand on fait l'amour à sa femme ?
Ah, je sais pas, à chaque fois vous me coincez, je peux pas.
Eh ben, c'est simple. Vous prenez votre femme en levrette et vous lui glissez à l'oreille qu'elle a le même parfum que votre secrétaire et vous essayez de rester sur elle. Et bon courage. Bonjour Jean-Marc.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel.
Bonjour.
Merci de prendre mon appel en tout cas.
Je vous en prie.
Je vous ai beaucoup écouté, beaucoup lu, mais là j'avoue que je suis un petit peu, j'ai un problème qui devient un petit peu embêtant. J'avais un petit bouton que je pensais à peu près au niveau des glandes salivaires, que je pensais externe il y a une dizaine d'années, et puis ça a passé. Puis il y a 2 ans, il s'est un petit peu réveillé, même beaucoup, et puis il s'est infecté, et il a fallu passer aux antibiotiques. Et puis finalement, un médecin ORL a fait l'ablation de cette petite glande. Et puis depuis, ben, malheureusement, alors la douleur est revenue au même endroit, la douleur. Et puis, il n'y a pas longtemps, je me suis réveillé avec un mal d'épaule. Mais avec tout ce que j'ai appris de Michel Oudoul, je me suis dit que c'était sûrement lié, le mal d'épaule.
Et puis, oui, vous en avez parlé tout à l'heure à 14h, hein, je précise, pour ceux qui étaient peut-être pas à l'écoute, que c'était relié... aux épaules et...
Oui, il y avait un lien, oui.
Et puis la douleur, cette fois-ci, se diffuse aussi sur le côté... Alors, le bouton était côté gauche, et la douleur se diffuse aussi maintenant côté droit. Et quand vous avez tout à l'heure parlé à 14h de la clavicule, depuis le début de ma vie, j'en suis à 4 fractures de clavicule. Donc, je ne sais pas si tout ça a un lien...
Non, pas du tout.
En tout cas, je suis un petit peu perdu dans tout ça. Donc, voilà, j'aimerais bien avoir votre avis. S'il vous plaît.
Alors, le bouton originel était sur un ganglion ou sur une glande salivaire ?
Alors, pour moi, je ne sais pas, puisque comme ça a disparu, je n'avais pas consulté. Donc, pour moi, il me semblait externe, mais apparemment, il était plutôt sur une glande salivaire quand il y a eu l'ablation.
Il était sur une glande salivaire. Pourquoi une antibiothérapie ? Parce qu'il y avait une bactérie ou un microbe qui avait été identifié ?
Non, mais il y avait vraiment une grosse infection avec des sorties externes de pus carrément.
Ah oui, d'accord. Vraiment, oui, d'accord, très bien. Ah oui, d'accord, très bien. Oui, bah oui, donc
il y avait vraiment quelque chose d'assez conséquent quand même, oui.
Très bien. Et ça, c'était de quel côté ?
Gauche.
Côté gauche. Voilà. Donc tout ce qui se passe effectivement à ce niveau-là, au niveau du maxillaire, de ce qu'est la mâchoire. Bien sûr que ça parle aussi de... Ça parle de deux choses. Ça parle de l'expression. D'ailleurs, quand on s'interdit l'expression, comment on dit ? On dit qu'on serre les dents. Et la deuxième des choses, c'est... ça parle aussi, bien sûr, puisque c'est la mâchoire, ça sert à ce qu'on va avaler, accepter de déglutir. Donc, on est véritablement complètement dans ce schéma d'expression qu'on évoquait tout à l'heure. Le fait qu'il y ait quelque chose qui soit infectieux, qui soit un bouton qui soit là... signifie sans doute qu'il y avait un agresseur extérieur, donc quelque chose qui vous infectait, un vécu sans doute de nécessité à répondre à une situation externe qui vous contraignait à serrer les dents et qui sans doute devait gêner une expression quelle qu'elle soit. Avec le fait sans doute, bien entendu, que après ça a des conséquences sur la manière avec laquelle vous vous positionnez et vous agissez. Là, on est sur le champ de l'explication psycho-énergétique et symbolique. Sur le plan du mécanique, c'est très basique et simple. On a au niveau du visage et qui émerge au niveau de la colonne cervicale ce qu'on appelle des nerfs faciaux. Ils sont au nombre de 12. Il y en a certains qui vont vers les mâchoires, vers les maxillaires, d'autres qui vont vers les yeux, vers les tempes, enfin, etc. Ce sont d'ailleurs des terminaisons nerveuses sur lesquelles il peut y avoir de temps en temps des problèmes de type zona ou autre. Et ces nerfs faciaux sont des nerfs qui ont des incidences, bien sûr, sur tout ce qui va être les ressentis au niveau du visage. Donc, on peut avoir une douleur qui se manifeste au niveau du visage et qui soit simplement liée à une compression au niveau cervical. Quand vous avez, mécaniquement parlant, quelque chose qui, comme ce bouton infectieux, douloureux, etc., qui est présent un certain temps, eh bien, ça génère ce qu'on appelle des réflexes posturo-antalgiques. C'est-à-dire qu'on va essayer de prendre une position de tête et de nuque qui va essayer de limiter le ressenti et le vécu douloureux. Vous avez donc inconsciemment, imperceptiblement, dû incliner plus ou moins la tête vers la gauche ou vers la droite pour essayer de vous libérer un petit peu de ce champ douloureux. Ça, ça a des conséquences à ce moment-là sur les terminaisons nerveuses qui elles-mêmes descendent au niveau du plexus cervical vers les épaules et vers les bras et donc se retrouver avec ces différentes incidences que vous avez au niveau des ressentis d'épaule, etc. Faire le lien avec les clavicules, je pense qu'il y a eu un temps décalé dans l'histoire. C'était du même côté, les clavicules ?
Oui.
Et donc là, comme
c'est tout le côté gauche.
Donc là, comme on est véritablement dans cette dominante du côté gauche, effectivement, j'aurais envie de vous poser des questions qui tourneraient autour de quels sont a priori pour vous les interdits paternels fantasmés ou réels qui vous ont empêché, pensez-vous, dans votre vie, de faire un certain nombre de choses.
Pas forcément les interdits, mais disons que j'ai un peu vécu sur un chemin qui était le chemin très très conformiste. Et aujourd'hui, je m'aperçois que c'était pas mon chemin. Donc,
c'est ça. Donc les interdits à être vous-même, ou si vous voulez, qui étaient cachés derrière des injonctions à être autre chose que ce que vous pourriez être.
Tout à fait. Oui. Aujourd'hui, j'ai l'impression que j'étais pas moi-même. Enfin, je découvre j'ai pas fait le chemin que j'aurais dû faire. Je le découvre seulement à l'âge que j'ai aujourd'hui, quoi, 54 ans.
Alors, est-ce que c'est trop tard ?
Je pense pas, mais il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites, qui sont établies. Donc, c'est pas évident.
Qu'est-ce qui est pas évident ?
On admet certaines choses, mais après, pour pouvoir les changer, même progressivement, ça prend du temps. Il y a certaines choses qui ne sont pas souvent possibles non plus.
Demande à dépasser les interdits et à prendre des décisions. Mais souvent, bien entendu, quand on est dans des situations ou des schémas comme ça, tout ce que l'on voit, c'est le risque, c'est la tension, c'est la crainte, c'est parce qu'il faut comprendre que tous ceux qui sont autour sont habitués aux personnages que nous sommes et pourraient être perturbés par celui que nous aurions envie d'être.
Et puis, il faut le reconnaître, Michel Odoul, c'est plus facile d'être rebelle à 18 ans qu'à 50 ans.
Non, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens.
Certes, mais dans la tête de beaucoup de gens, c'est
oui, plus, mais ça, c'est une fausse.
J'entends bien, moi qui suis toujours rebelle, j'entends bien, voilà. Mais on peut comprendre. C'est ça que je veux dire à Jean-Marc, c'est que ce que vous n'avez pas osé parce que vous n'étiez pas réellement conscient, là, vous en êtes conscient, donc il faut oser, quoi.
Et à 50 ans, on a des moyens qu'on n'avait pas. À 50 ans, on a une maturité et une intelligence qui fait qu'on ne commettra pas les erreurs
qu'on fait
à 18 ans par réaction. Parce que souvent, à 18 ans, on va faire des choix de vie, non pas pour quelque chose.
Et parfois, on est rebelle à tort, on est bien d'accord. Ouais.
Et alors qu'à 50 ans, on a eu le temps de poser les choses. Et la responsabilité que vous montrez en vous disant « c'est pas simple et c'est pas facile » est une excellente chose parce qu'elle vous évite de faire n'importe quoi. Mais elle n'est absolument pas destinée à vous interdire de prendre des décisions et à mettre en place ce qui convient. Parce que aussi étonnant que cela puisse paraître, des changements de vie qu'on peut faire peuvent apporter le mieux à tout le monde qui sont autour. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où... j'en parle avec d'autant plus de facilité. Vous savez que moi, j'ai mis dans ma propre vie des changements assez radicaux par rapport à ce que j'étais et ce que j'avais mis en place et tout ce que la société pouvait projeter autour de ce que j'étais dans ma vie et dans mon rôle pour faire ce que je fais aujourd'hui. Et que de ce schéma de vie-là, eh bien, tous ceux qui étaient autour, finalement, tous ont finalement été OK. Dans un premier temps, tout le monde a peur face à l'inconnu et au changement. Et aller dans l'inconnu, la fleur au fusil, ça serait une erreur. Et la force que vous avez, justement, à l'âge qui est le vôtre, c'est que vous êtes capable de poser quelques équations et de faire des choix qui vont faire que, non pas le changement va être mis de côté, mais qui va juste être adapté, régulier, temporellement, matériellement, organisationnellement, pour faire qu'il se passe dans les meilleures des conditions. Ça va libérer vos épaules. Hein.
Oui, d'accord. C'est pas simple. Il y a beaucoup d'équations à résoudre, mais
oui, bien sûr.
Mettre en même temps. Ouais.
Mais Jean-Marc, rien n'est simple. On peut toujours rester dans une vie qui n'est pas la nôtre. C'est peut-être plus simple, mais c'est plus douloureux.
J'ai déjà opéré quelques changements.
Est-ce que ça a été si difficile ?
Non, c'est pas difficile, mais je crois que le plus difficile, c'est le regard qu'on a l'impression d'avoir sur le reste par rapport au reste de la société.
Alors ça, Jean-Marc, d'abord, il faut avoir beaucoup d'indulgence pour soi. On fait ce qu'on peut. Chacun fait ce qu'il peut. Il n'y a pas à juger quoi que ce soit. Et puis alors le regard de la société, ça, il faut s'en libérer une bonne fois pour toutes. Hein.
Oui, c'est vrai, mais vous savez que la différence dans notre société, elle est souvent très remarquée. Donc, être différent et faire des choix différents, c'est souvent, très souvent, mal accepté.
Mais j'en parlais tout à l'heure. J'en parlais tout à l'heure de ça. Justement, ça signe très précisément que s'il y a une telle contrainte à la conformité, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été résolu par rapport à la première autorité qui nous en a donné. Vous avez des enfants ?
Oui, 4.
Ils font partie de ce qui vous donne l'impression que vous ne pouvez pas vous permettre le changement ?
Pas pour leur bien matériel, mais pour leur existence quelque part, de pas être dans la norme. Pour eux, ça sera plus compliqué parce qu'ils sont.
Qu'est-ce que vous en savez ?
Mais oui, mais est-ce que vous avez entendu ce que vous avez demandé, Brigitte ?
Oui, c'est vrai.
Ne projetez pas l'enfant que vous avez été sur vos enfants. Hein. Attention. Et puis c'est votre vie, hein. Et ils vont faire la leur.
Vous savez, les changements qui posent véritablement problème aux autres sont les changements qui sont faits quand on est poussé au bout et qu'on ne peut pas faire autrement, et à ce moment-là, ils se font de façon brutale. C'est ceux-là qui peuvent générer des problèmes. S'ils sont pris en main et qu'ils sont décidés et organisés, ils ne posent jamais ces problèmes-là. Les seuls à qui ils posent problème dans ces moments-là, c'est tous ceux qui auraient voulu faire comme nous et qui ne l'ont pas osé.
D'accord.
Et là, les critiques de ces gens-là, ce sont les meilleurs des compliments.
D'accord. Bon, ça, c'est réconfortant.
Merci Jean-Marc, en tout cas, merci beaucoup. Et je suis sûre que ça va faire son chemin. Comme on dit, on plante les petites graines, après c'est à vous d'arroser. Mais
oui, c'est ce que dit Coelho, que chacun y verse sa légende personnelle.
Oui, absolument. Merci beaucoup Jean-Marc. On fait une petite pause, on retrouve Nathalie dans un instant.
Sud Radio à Toulon, en DAB+.
Sud Radio.
Live in a broken home, girl, I'm begging,
begging, begging you.
22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
On continue à explorer cette zone ORL avec Michel Oudoul qui est avec nous et on retrouve Nathalie. Bonjour Nathalie.
Oui, bonjour. Merci. Et merci de me prendre à l'antenne.
Je vous en prie. Bonjour. Donc vous avez des sinusites, hein, c'est ça?
Voilà, j'ai des sinusites à répétition, beaucoup de migraines, hein, en raison de 2 à 3 par mois. Bon, petite, j'avais beaucoup de bronchites asthmatiques, après j'ai eu pas mal d'angines. Adolescente, beaucoup de maux de tête. Là, dernièrement, j'ai eu des abcès de la bouche. J'ai très souvent des migraines. Et puis, dernièrement, je me suis fait arracher une dent. J'avais 3 abcès à la bouche et j'ai fini par une pneumonie. Donc, c'est souvent... Il y a beaucoup de terrain infectieux, il me semble.
Ah ben, manifestement, vous faites bien les choses, hein.
Voilà.
Bon.
Quelle est la question?
Eh bien, la question, qu'est-ce qu'il y a à faire pour éviter, toute cette infection, d'où ça vient? Parce que, bon, on m'avait diagnostiqué, je vous ai déjà appelé, on m'avait diagnostiqué une spondyarthrite ankylosante qui a été revue, on ne sait pas trop si je l'ai ou pas finalement. Il y a un terrain infectieux, ça c'est sûr. Mais infectieux, inflammatoire, je veux dire.
Ah oui, voilà.
Voilà, il y a un terrain inflammatoire, j'ai pas d'immunité apparemment, parce que dès que je me fais arracher une dent ou autre, ça dégénère, ça se passe très mal. Mais après, je sais plus que faire pour... parce que bon, on m'a fait plein de traitements par rapport aux inflammations, il n'y a rien qui a fonctionné. La cortisone, mais bon, j'ai pas pu continuer à en prendre. Donc, je voulais savoir ce qu'il fallait que je fasse pour...
Ben, poser peut-être un peu mieux vos limites, déjà, Nathalie.
Oui. Mes limites.
Ben oui, vos limites.
C'est-à-dire...
Mais je dis ça, est-ce que vous savez poser vos limites vis-à-vis des autres, par exemple?
Pas trop.
Oui. Vous voyez bien que, quelque part, vous êtes envahi, si je puis dire, de plein de choses.
Il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs niveaux dans ce que vous
nous raconter.
Exprimer comme souffrance physique. La spondylarthrite ankylosante, c'est quelque chose qui, si on veut être extrêmement trivial, qui signe la difficulté à se tenir debout et droit entre ces deux points d'appui que sont les deux hanches. Donc ça signe la difficulté à se construire par rapport aux référentiels fondamentaux que les parents ont pu donner, à tort ou à raison, et sans mettre en cause ses parents, quel que soit, je parle des vécus qui ont été les vôtres, la façon dont ils ont été ressentis. En tout cas, il y a eu du mal et ça fait mal à se tenir droit et ça fait mal à faire face à ce monde extérieur. On a de la difficulté par le fait de la tenue qui est la sienne droite à se protéger, à se défendre par rapport à ce monde extérieur. L'autre composante de la spondylarthrite, c'est qu'il y a une composante auto-immune. Et on voit que donc le système immunitaire, de ce fait-là, et c'est un petit peu déparamétré. Vous retrouvez... au point d'en aller jusqu'à l'agression même sur les propres cellules du corps. On avait éventuellement, il me semble, effectivement, la fois où vous aviez appelé, j'avais posé la question, dit, mais vous êtes sûr qui vous a fait ce diagnostic de spondylarthrite? Parce qu'un certain nombre de choses que vous disiez ne semblaient pas correspondre à ça. Donc je vous avais dit, revoyez avec votre rhumatologue, etc. Mais moi, ça me semble assez étonnant. Quand je vois maintenant les éléments que vous amenez là, il y a effectivement la signature d'un système immunitaire qui non pas est en excitation et en excès, mais qui est un peu en fragilité. La raison pour laquelle vous avez effectivement, dès qu'il y a quelque chose, une infection qui apparaît tout de suite.
C'est ça.
La troisième des infos qui est fondamentale, c'est que a priori chez vous, tout se passe au niveau de la tête.
Ouais.
Et je pense que vous avez construit un rapport au monde dans lequel c'est la tête qui domine. Et notamment la tête et le cortex à un point tel que d'ailleurs vous finissez par vous prendre la tête, d'où les migraines récurrentes qui arrivent. Vous avez sans doute vécu quelque chose qui a été un vécu d'agression par ce monde extérieur, qui a sans doute été très puissant et très fort, et vous avez eu besoin d'anesthésie et de couper les ressentis. Ça, c'est ce qui se traduit dans la sphère sinus. Les sinus, c'est ce qu'on appelle les portes de l'âme. C'est la manière avec laquelle, si vous voulez, des informations très subtiles, hein, l'odorat, c'est les premières informations et c'est les dernières informations qu'on capte du monde. Et ce sont des informations qui ont comme particularité de ne pas transiter par quoi que ce soit, Hein, c'est les capteurs de l'odorat sont des systèmes nerveux qui vont directement en prise avec le système limbique.
Et c'est très très pénible de perdre l'odorat d'ailleurs. Hein.
Ah oui.
Il faut quand même le rappeler. Hein.
Ça tue le volume à la vie.
Ça tue le plaisir, ça tue énormément.
Donc ça tue le goût, ça, etc. Et on est dans ces portes de l'âme, c'est-à-dire qu'en plus ce sont les informations de l'intime. On est dans ce qui s'appelle la sphère des sinus, et notamment dans les cas de sinusites qui peuvent être des sinusites purulentes, on est effectivement dans un vécu sans doute qui a été un vécu blessant ou tensionnel, qui a pourri le rapport à la vie, à soi et à l'intime. Et la douleur et la souffrance a été telle qu'on a mis une chape de plomb là-dessus, et c'est ça qui se traduit par ces migraines répétitives qui arrivent et qui sont là montrer qu'il y a quelque chose qui est en train d'essayer de pousser à la porte. Il faudrait donc que vous puissiez vous faire aider pour aller travailler sur ce champ-là. Sur le plan médical, et etc., vous avez l'homéopathie qui a une très bonne action au niveau de tout ce qui est sinusite, et etc., etc. Après, sur le champ des migraines, il faut vous faire suivre sur le plan médical.
Et puis, il faut revenir au corps, Nathalie. Il faut essayer d'abord d'aimer un peu plus votre corps et le laisser un peu plus vibrer. Vous
avez un souvenir d'agression ?
Oui, j'en ai plusieurs.
Mais oui, mais c'est pas drôle.
Qui ont touché à l'intime ?
Oui.
Vous voyez, il faut
c'est
vraiment...
C'est ça qu'il faut libérer.
Il faut vraiment libérer ça et c'est pas drôle.
Il faut pas le cacher. Il faut pas mettre une chape dessus. C'est ça qui fait mal. Il faut le cracher.
C'est vrai que je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Hein.
Mais vous n'êtes pas obligé de parler. Mettez-le par écrit. Couchez-le sur du papier. Allez-y. Et après, vous brûlez l'écrit. Vous gardez pas.
Ce que je crois surtout, Nathalie, c'est que vous minimisez ce qui vous est arrivé, qui est beaucoup plus, qui vous a certainement beaucoup plus abîmé que vous ne voulez l'entendre, parce que c'est une défense. Hein, c'est une défense que on connaît bien. Hein,
ne courbez pas le dos.
On se dit, c'est pas si grave. Je continue, j'avance. Mais vous avancez avec un tel fardeau. C'est difficile d'avancer, vous comprenez. Donc à un moment donné, il faut le regarder en face, ce fardeau, pleurer, être en colère, laisser les émotions aller fort.
Exprimer, c'est-à-dire faire sortir.
Il faut peut-être le faire en vous faisant aider, je ne sais pas, mais c'est ça qui va libérer un petit peu votre corps, votre tête, et qui va vous permettre d'aller un peu mieux.
D'accord.
Vous comprenez.
D'accord.
Ben oui.
Oui.
Juste une question comme ça, purement intuitive. Est-ce que du théâtre vous plairait ?
Pourquoi pas, oui.
En tout cas, l'art-thérapie, c'est une bonne piste, en effet, Michel Odoul. De toute façon,
le théâtre,
oui. Oui. Parce que là, vous pourrez cracher le morceau.
Ouais, c'est vrai.
Allez-y, Nathalie. Je vous assure, ça vaut le coup. Merci, d'accord. En tout cas. Merci beaucoup. On continue avec le Love Conseil. On va parler des quatre éléments. Vous savez évidemment de quoi on parle, Michel Odoul. Hein. Nos quatre éléments, c'est une notion un peu astrologique et ce sera un éclairage un peu nouveau dans ce Love Conseil. Et puis, vous pouvez continuer à nous appeler 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio Foix.
103.7.
Sud Radio.
This ain't Texas. Ooh. Ain't no hold 'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus. Ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a hey. Come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. Redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle. Boy, I can't read your mind. This ain't Texas.
to the floor.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a fake, come take it to the floor now. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh. Oops, spurs, oops. To the flow now, ooh. Cannot dance with you, baby. Pour that sugar and liquor on me too. Spurs, spurs, boots. Sologenic, photogenic.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
Brigitte Lahaye, Sud Radio. Le Love Conseil.
Alors, Michel Audou, je ne vous ferai pas l'affront de vous dire, vous savez de quoi on parle quand on parle des quatre éléments, évidemment. On parle du feu, de l'eau, de l'air et de la terre. Et en astrologie, évidemment, ça a beaucoup d'importance. Et c'est intéressant parce que on n'aime pas de la même manière suivant qu'on est dominé par l'un ou l'autre de ces quatre éléments. Et donc, c'est intéressant de voir quel est notre élément dominant dans notre thème et quel est celui du partenaire. Mais en même temps, je ne vais pas faire un cours d'astrologie, ce n'est pas le but. Hein. Je vais juste évoquer les quatre éléments et leurs besoins. Quand on est dominé par la terre, ce qui n'est pas votre cas, je sais que c'est le feu chez vous, Michel Audoul, mais je ne le dis pas aux auditeurs. Bref, quand on est dans la terre, on a plutôt besoin de palper, de toucher, mais surtout aussi de se sentir en sécurité dans une relation. Hein. Et je rappelle les trois signes de terre, hein, la Vierge, le Capricorne et le Taureau. Lorsqu'on est dans le feu, comme le Lion, le Bélier et le Sagittaire, bon, on pense bien sûr à la passion, mais il y a aussi une envie de chaleur. On a envie que ce soit chaud au sens à la fois symbolique hein, et réel du terme. Vous êtes d'accord avec ça?
Mmh.
Hein, on n'aime pas la médiocrité, on n'aime pas tout ce qui est mesquin, tout petit, on a besoin de passion.
Et de choses directes et droites.
Et exactement. Quand on est dominé par l'eau, eh bien on a besoin d'émotions, hein, on a besoin que ce soit dit, mais que ce soit dit avec beaucoup d'empathie, de bienveillance, et on devine, on croit deviner, hein, parce que c'est pas toujours le cas. On croit deviner tout ce que ressent l'autre. Je dirais presque qu'on en fait un peu trop dans ce domaine émotionnel. Alors les trois signes d'eau, Cancer, Poisson, et voilà que j'ai un petit tatatata. Cancer, Poisson, et puis
Verseau.
Non, ça c'est l'air. Attendez, juin, Cancer, juillet, août. Scorpion. Oui, c'est pas étonnant d'ailleurs que j'oubliais le Scorpion, parce que c'est peut-être ce besoin d'émotion le plus tordu, si je puis dire. Et quand on est dans l'air, donc il reste les trois signes, hein, Verseau, Balance et Gémeaux, on est plutôt dans l'intellect, on est peut-être un peu plus dans le besoin que la parole de Dion avec quelqu'un d'autre, ben, c'est d'améliorer évidemment la relation affective en tenant compte de l'autre et de ce qui peut-être est nécessaire pour lui et de peut-être ce qui nous manque, nous, pour pouvoir améliorer encore la relation. Et donc, après, c'est facile d'imaginer que si il y a quelqu'un qui est dominé par l'air et l'autre par l'eau, bah, c'est pas très facile, parce que l'air et l'eau, ça se mélange pas si bien que ça. C'est mieux que l'eau soit avec la terre, elle va nourrir la terre et la terre va réceptionner l'eau. Enfin bon, tout ça est assez sympathique. Et pour les mordus de symbolisme, chaque peuple de la terre, hein, de la terre terrestre, si je puis dire, a un élément, hein. Alors chez les occidentaux, c'est l'air. Ça surprendra personne, je pense. Chez le continent américain, c'est le feu. Notamment, on pense au Brésil avec ses rythmes endiablés. Hein. L'eau, c'est les peuples de Polynésie. Ça va pas surprendre non plus grand monde. Et la terre, c'est le continent africain avec ses pratiques animiques, notamment. Hein. Je trouve ça assez intéressant sur le plan des continents, les quatre éléments.
Oui, c'est valable sur tout un tas de choses. Et même d'ailleurs, puisque on est dans le cadre d'une émission où on évoque des choses en lien avec le corps. Ces quatre éléments, ils peuvent être mis en lien avec les tempéraments hippocratiques.
Oui.
Et qu'en fonction du besoin, il y a un tempérament qui répond, et etc. Et que l'intérêt, si vous voulez, cette connaissance-là, parce que souvent, c'est la même chose que l'on rencontre avec les principes taoïstes et de la médecine traditionnelle chinoise, où il n'y a pas quatre, mais cinq éléments, mais on est exactement dans la même logique. C'est-à-dire que la connaissance de certains systèmes et de certaines structures organisatrices de la vie et du vivant, ils sont intéressants, non pas parce que ce sont des pseudo-croyances ou des déterminismes, mais parce qu'ils permettent de mieux se connaître soi et de mieux connaître l'autre.
C'est-à-dire
qu'à partir du moment où on connaît l'autre, on est mieux à même d'identifier ses besoins. À partir du moment où on se connaît soi-même, on est mieux à même d'identifier nos propres besoins. Si nous avons identifié nos propres besoins, nous savons ce que nous pouvons attendre de l'autre et lui demander. Si nous avons identifié les besoins de l'autre, nous savons sur quel plan nous pouvons lui répondre. Et ça facilite le quotidien à tout point de vue, que ce soit personnel, professionnel ou autre. Et avec les enfants, c'est tellement magnifique.
Bien sûr, et c'est important parce que quand on connaît ses propres besoins, on va plus facilement pouvoir interpréter les besoins de l'autre. Sinon, on est un peu toujours dans la projection que nos propres besoins sont aussi les besoins de l'autre. Et donc, ça crée forcément des distorsions.
Mais quand ce sont des éléments convergents et cohérents, ça pose pas de problème. Mais quand ce sont des éléments plus différenciés, ça devient problématique, ça peut même être conflictuel.
Exactement. On retrouve Karine qui a testé pour nous ce jouet, ce magnifique jouet, je dois dire. C'est un vibromasseur .G RAV 2 de la marque Vibe, que l'on trouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Bonjour Karine.
Bonjour Brigitte, bonjour Michel Odoul.
Bonjour.
Alors, bonjour. Comment pourrait-on le décrire, Karine?
Un très bel objet, un très beau jouet. Pour dire la vérité, j'avais choisi celui-là pour faire connaissance avec mon point G.
Il est légèrement courbé, hein, pour justement bien toucher cette partie-là du vagin.
Mmh. Oui, et on peut le plier aussi, d'ailleurs, un peu.
Ah oui, c'est vrai. Vous avez remarqué. Oui, en effet. Donc il est légèrement courbé ou carrément presque à angle droit. Hein,
Oui.
Oui, absolument. Il s'assoit, si je puis dire.
C'est tout à fait ça. La matière est très agréable aussi à toucher.
Oui, c'est un très bel objet. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il est visiblement très, très performant également, avec beaucoup de vibrations. Etc.
Mm-hmm. Oui, il y a beaucoup de vibrations, beaucoup de programmes. Le seul truc que je pourrais dire, c'est que la plus petite vibration vibre un peu fort quand même.
C'est terrible, hein. Pourquoi ils les mettent toujours avec une vibration forte comme ça?
Oui, parce que j'ai essayé toutes les vibrations et je laissais toujours vers le minimum et à mon goût, toujours est-il, c'était largement suffisant.
Oui, mais c'est terrible, hein, comment ils sont tout le temps en train de... Ils augmentent. Oui. C'est bon, bah, ouais. C'est déjà une petite critique. Bon, dommage.
Oui, mais bon, après, c'est pas trop mon... C'est pas une méchante critique, ça peut dépendre peut-être des personnes aussi.
Oui, vous êtes peut-être plus sensible que la moyenne, on va dire ça.
Voilà, peut-être. Bon. Donc voilà.
Et alors, après, il fonctionne aussi sur le, avec à distance, hein, avec le smartphone. Oui.
Alors, j'ai installé l'application, mais bon, je n'ai pas encore essayé avec l'application. Donc voilà, je l'ai installé, j'ai vu qu'on pouvait l'utiliser même avec, à l'autre bout de la Terre, quelqu'un qui pouvait le faire fonctionner si cette personne se trouvait à l'autre bout de la Terre. Donc ça pourrait être intéressant pour ceux qui sont séparés. Donc voilà, après, oui, non, c'est un chouette jouet.
Oui, très bien. Bon, bah, écoutez, vous me donnez sa note alors, Karine ?
Eh bien, je vais lui donner un 8,5, je pense.
8,5 sur 10 pour ce Vibromasseur.g Rave 2 de la marque White.
Oui.
D'accord.
Oui.
Ok. Et on le retrouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Il existe en bleu, comme je l'ai là. Il existe en rose également, pour ceux qui sont plus amoureux de ces couleurs qui existent beaucoup pour les jouets. Merci beaucoup, Karine. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas, hein, sur ruedesplaisirs.com, vous retrouvez tous les jouets qu'on teste tous les mardis et tous les jeudis. On continue avec Delphine qui nous a rejoint. Bonjour, Delphine.
Bonjour, Brigitte. Bonjour, Michel.
Bonjour.
Donc, c'est la gorge aussi qui vous fait des misères, Delphine.
Eh oui, et alors j'ai eu la chance, et oui. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai les boules, mais bon, j'ai bien très souvent entendu cette remarque, et j'ai souvent fait l'association, j'ai souvent fait penser à la métaphore. Mais tout à l'heure, je vous écoutais là depuis le début de l'émission, et j'ai entendu...
Ah, j'ai l'impression qu'on a un petit souci avec Delphine. On va essayer de retrouver le contact. Pourquoi ? Oui, d'ailleurs, c'est marrant que cette expression « j'ai les boules », qu'est-ce que ça signifie, Michel Oudoul ?
Je crois qu'on l'a retrouvé.
On a retrouvé Delphine, donc oui. On vous redonne la parole, Delphine.
Ah, c'est gentil.
C'est gentil d'être revenue.
quand même, j'allais pas rester si peu, c'était dommage.
Ça aurait été dommage pour vous, oui.
Ah bah oui, et puis de faire des fois Michel Oudoul, alors là, j'aurais culpabilisé. Hein.
Ah là là.
Il est très en colère quand on lui fait ça, vous savez. Allez-y, Delphine.
Alors oui, moi, en fait, pour faire simple et efficace, j'entendais tout à l'heure donc un des témoignages, et ça m'a refait penser à mon histoire à moi. En fait, tout à l'heure, donc quand j'ai eu votre collègue en antenne, j'expliquais que moi j'appelais parce que il y a pas très longtemps, j'ai eu des problèmes de gorge qui ont été inspectés par un allergologue, en fait, en même temps que les poumons, parce que j'étais gênée à la course, je fais du jogging, j'étais gênée à la course. Et il y avait un léger petit problème d'asthme, et pour ce problème de gorge, il m'a envoyé voir un ORL, et chose étonnante, l'ORL au moment de la visite, me dit non, au niveau RL, tout se passe bien. En revanche, je pense que c'est au niveau de l'estomac que ça se passe pas bien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc il m'expliquait qu'aujourd'hui, il y a des études qui montrent que l'acidité, en fait, qui peut être dégagée au niveau de l'estomac, le reflux acide peut faire qu'on a des maux de gorge. Et il m'a mis sous oséméprazole. Non, oméprazole, pardon, je me trompe. Et l'oméprazole, en fait, tous les matins, a calmé les maux de gorge. Sauf qu'il y a 3 semaines, l'ordonnance étant terminée, mon médecin généraliste l'a renouvelée, mais avec un dosage moindre, et là, je reprends mal à la gorge. Alors, je me dis, bizarrement, c'est peut-être mécanique, mais tout ça, ça pose question.
Bien sûr.
Et en entendant le témoignage de tout à l'heure, je recroise. Donc, une des dames qui a témoigné, j'ai oublié son prénom, disait que dès toute petite, la sphère ORL avait toujours été un problème. Moi, effectivement, ça a été le cas. Je suis née prématurée, j'ai eu une coqueluche. Et à la suite de quoi, de 3 à 10 ans, j'ai tout le temps eu angine. On m'a enlevé les amygdales parce que je me souviens même, l'ORL avait dit non, mais vous n'avez pas des amygdales, vous avez des éponges. D'ailleurs, en disant le mot éponge, je recroise avec un truc qu'on m'a dit plus tard par rapport à mon mode relationnel, voyez-vous. Et voilà, tout ça mis bout à bout, je me dis que certainement vous allez pouvoir m'aider à gérer ces problèmes de gorge.
Mais vous n'avez pas de problème de gorge.
Non, j'ai un problème de moi.
Vous avez un problème d'estomac.
Oui.
C'est-à-dire que l'expression et la manifestation, c'est à travers l'irritation et l'acidité qui arrive au niveau de la gorge, parce que c'est ce que vous a dit cette ORL est tout à fait exact, mais ça fait très longtemps qu'on le sait, normalement. Il y a même en acupuncture, donc ça date de quelques milliers d'années, un des premiers points qu'on utilise pour traiter notamment les aigreurs à la gorge, les toux, à certains moments, notamment au coucher, ou etc., en utilisant des points du méridien d'acupuncture de l'estomac. Donc ce lien avec l'estomac et la gorge, il y a une remontée au niveau de l'œsophage qui se situe à très grande proximité avec le larynx, avec la trachée artère, et qui va permettre de comprendre comment de l'acidité gastrique qui remonte va pouvoir générer une espèce d'agression au niveau de la sphère haute de la trachée, et qui va générer ces maux de gorge, et qui va générer une sorte d'irritation, un petit peu comme si vous vous mettiez de l'acide chlorhydrique sur la main, parce qu'il faut savoir que l'estomac est capable de sécréter même de l'acide chlorhydrique. Ça, c'est la première des choses. Donc, il y a manifestement, au niveau de votre gorge, quelque chose qui est irrité et qui signe qu'il y a une difficulté à exprimer, sans doute, quelque chose, mais dont l'origine et la cause se situent au niveau de la sphère digestive. Et dans la sphère digestive, l'estomac, c'est ce qui nous permet de gérer la matière, et l'acidité, c'est ce qui parle du foie et de la vésicule biliaire, c'est-à-dire de l'émotion de la colère. Et donc, il y a sans doute, dans le champ organisationnel de votre vie et la manière avec laquelle, peut-être, vous avez pu l'organiser et la gérer, quelque chose qui vous est resté sur l'estomac et qui vous irrite profondément, et qui, dans le temps d'aujourd'hui, commence à remonter, et le reflux actuel est sans doute en résonance avec des rappels de mémoire de ce que vous avez vécu déjà plus tôt.
L'injustice, c'est quelque chose qui, enfin, c'est quelque chose que j'ai fréquenté trop souvent et que j'ai réprimé trop longtemps, que j'ai pas exprimé.
En tout cas, c'est la colère que vous avez réprimé très longtemps. C'est pas l'injustice.
Ouais, c'est la colère.
Vous n'avez pas su justement faire circuler cette colère et l'exprimer pour parce que vous avez subi l'injustice. Oui. Bah, il est jamais trop tard, hein, Delphine.
Ben non.
Vous avez l'impression d'avoir été castrée de quelque chose?
En termes de relation, il y a eu, en termes de relation, très tôt, ouais.
En termes de projet de vie?
Non, en termes de relation, vraiment.
D'accord.
Enfin, en termes de projet de vie, ouais, aussi, professionnel surtout.
C'est de ça dont on parle avec l'estomac.
Ah bah voilà, en termes de projet de vie professionnel, c'est sûr, il y a eu de toute façon, c'est, vous savez, à une époque, dans les années 90, il y avait des conseillers d'éducation dans les collèges qui faisaient un métier remarquable, qui était de dire aux parents, votre enfant a des capacités intellectuelles, faites-lui faire des études, sans se poser d'autres questions, et surtout sans, je juge pas, hein, mais c'est une observation, sans surtout que
alors,
les parents...
Il faut pas juger, certes, mais vous avez le droit d'être en colère.
C'est ça, et il y a eu deux choses en fait qui m'ont mis très en colère.
Surtout qu'en jugeant, vous prenez le risque d'être injuste.
Oui, je voudrais pas. Il faudrait quand même pas.
Oui.
Non, mais il y a cette remarque, voilà, votre fille a des capacités, alors faut lui faire des études, et puis aucune remise en question du diagnostic, quoi. C'est-à-dire la figure d'autorité a parlé, donc là il y a eu quelque chose,
c'est ça.
Rapport à mes parents, qui a été la figure d'autorité a parlé, donc personne ne bat contre ça, et tu vas faire ce qu'on me dit, quoi.
Et c'est toujours pas digéré.
Ah ben non.
Mais sauf que ces derniers temps, vous avez dû revivre une contrainte qui rentre en résonance avec ça, et qui a fait remonter le reflux.
Complètement.
Et bien voilà, il vous reste... Vous reste à vous mettre en colère et comme ça vous allez avaler les deux boules qui vous
la pathologie en... favorite des hommes d'affaires, vous savez, c'est l'ulcère à l'estomac. Hein.
Ouais, je vais essayer. Alors, j'ai pas l'intention de me transformer en femme d'affaires, mais par contre, je me dis que la colère, si on y prête attention, parce que ça m'est arrivé de l'écouter, on peut en faire une belle énergie.
Évidemment.
Et puis, vous savez, plutôt que de prendre... alors, les antiacides au niveau de l'estomac, c'est très bien, etc. Mais allez voir un praticien shiatsu, faites-vous repositionner certaines vertèbres dorsales, faites-vous faire un travail sur le méridien de l'estomac, et vous allez voir que cette acidité va un petit peu se calmer, surtout si, comme vous avez l'air de l'avoir entendu, vous allez accueillir un peu la colère et la laisser s'exprimer. À partir de ce moment-là, il y a de fortes chances que l'acidité se tempère, se calme, voire disparaisse. Et à partir de ce moment-là, que vous n'ayez plus ces aigreurs au niveau de la gorge et ces choses en travers.
Ah bien, je vous avoue que le médicamenté, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, donc je préfère largement faire ce genre de, enfin avoir recours à ce type de pratique. Je vais chercher autour de moi.
Oui, mais voilà, regardez, si vous cherchez un praticien, vous allez sur le site de mon institut, vous trouverez des gens que je référence, mais ça ne veut pas dire pour autant, vous savez, le médicament, il a l'intérêt de pouvoir agir vite et de servir quand même à arrêter un état de crise, et donc il a son rôle, mais dans la mesure où après vous savez gérer les choses par vous-même, et bien sûr que c'est beaucoup mieux. C'est une évidence.
Je crois que vous avez compris de toute façon, Delphine. Merci beaucoup. Merci de votre appel.
Merci.
On continue dans un instant avec Valérie. On va conclure même déjà. À tout de suite.
Sud Radio Toulouse.
101.8.
Sud Radio.
Pourquoi ce soir on n'irait pas danser très tard, même si c'est pas genre, je sais, même si tu es plutôt discret. On parlera de tout, de rien. On fera le monde, j'y connais rien. On se dira ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait pu être, mais ce qu'on aurait pu être, mais. Même refrain, jamais le temps de rien. Dans l'océan, garder le lien. Paris, Biarritz, avril ou juin. Pas beaucoup vu, vie dans les trains. Les disparus sont jamais loin. On a eu de la chance, c'est pas que de la chance, non, non. On a eu de la chance, c'est pas que de la chance. Qu'on en fera.
Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera?
Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent?
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Michel Odoul, toujours avec nous, on évoque donc la zone ORL, et c'est bien parce qu'on va conclure avec vous Valérie, et je crois qu'on va parler des otites, ce dont on n'a pas tellement parlé depuis le début. Donc c'est très bien, on va avoir à peu près tout passé en revue. Bonjour Valérie.
Bonjour Brigitte, bonjour Michel.
Bonjour.
Alors, moi j'avais une petite question évidemment pour Michel. Pour avoir fait des angines blanches à répétition en étant petite, puis une greffe de tympan sur l'âge de 30 ans, là où j'ai eu une ablation des amygdales, avec quand même un terrain fragilisé au niveau de la sphère ORL, ce que ça pourrait traduire, sur quoi je pourrais aller pour essayer d'améliorer ces problèmes-là. J'ai besoin, oui, d'être éclairée, en fait.
Mais vous avez déjà trouvé une première piste? Ben c'est en l'appelant aujourd'hui.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire que la réponse n'arrive que si on se permet de poser la question. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez commencer effectivement à chercher, il y a des chances qu'il y ait des éléments de réponse qui vous arrivent et que vous allez pouvoir les organiser à votre manière.
Tant qu'on ne se pose pas la question et qu'on se dit c'est pas de chance, c'est la vie, pourquoi pas d'ailleurs, hein,
mais il y a peu de chances qu'on change les choses.
Mais en effet, on va continuer à subir, tout simplement. Tandis que là, vous, comme vous dites, Michel Oudoul, Valérie appelle.
Et donc, je crois que si on veut reposer le schéma d'ensemble, il faut savoir qu'au niveau de la tête, c'est là où l'être humain retrouve les cinq sens qui sont les siens. Et les sens, c'est ce qui nous permet de percevoir le monde extérieur et de l'identifier, de le catégoriser, de le mémoriser, de le sentir, de le ressentir, etc. Nous avons les yeux qui nous permettent de voir, nous avons les oreilles qui nous permettent d'entendre, nous avons le nez qui nous permet de sentir, nous avons la bouche qui nous permet de percevoir le goût, hein, d'apprécier les saveurs des choses, et nous avons la peau qui, à travers le toucher, nous permet de nous informer des éléments du monde extérieur agressants ou, au contraire, agréables.
D'accord. Oui, jusqu'à présent.
L'enfant fait des pathologies sur chacun de ses cinq sens pendant son temps de croissance. Chaque fois qu'il est confronté à une phase évolutive dans sa vie, il va mettre en place des pathologies qui vont lui permettre de construire une immunité qui va aller dans le sens dont il a besoin. Il aura des aphtes dans la bouche quand il a un certain nombre de choses dont il n'a pas envie de se nourrir dans la phase de vie dans laquelle il est. Il aura des sinusites ou le nez qui se bouche lorsqu'il y a des choses qu'il ne peut pas sentir dans la vie qui est la sienne. Il aura de la conjonctivite ou des allergies au niveau des yeux ou des petits orgelets lorsque les choses qui lui sont données à voir ne satisfont pas. Et il aura des problématiques d'otite lorsque ce qu'il entend le pose problème, le perturbe, et etc. Et à travers ces manifestations, on construit son immunité. Et tout ça se retrouve à un moment donné à un carrefour informationnel qui est celui qui va permettre aux choses de rentrer ou de sortir. Et où là, nous avons deux agents fondamentaux qui sont les deux amygdales. À l'entrée de tous les sanctuaires ou tous les temples au Japon, par exemple, ou dans les temples taoïstes, vous avez toujours deux espèces de gardiens qui ont des têtes un peu de gorgones ou de démons comme ça, un peu comme sont les amygdales, et qui sont les piliers de protection de ce qui rentre. Et là, vous avez sans doute vécu des choses dans lesquelles vous avez eu du mal à constituer cette immunité. Et cette immunité, quand elle se traduit par des inflammations au niveau des amygdales, bien entendu, va après se traduire au niveau des tubes qui s'appellent les trompes de Stache, qui vont aller dans l'oreille, et ça peut générer des problématiques d'otite, etc. Il y a donc sans doute pour vous, très globalement, pour faire schématique, le besoin de donner un sens qui soit un sens non plus de difficultés ou de tensions des vécus que vous avez rencontrés, mais dans quelle mesure tous les vécus qui ont été les vôtres ont constitué une force qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez porter un regard qui soit plus juste sur votre quotidien et sur votre vie.
Bon, ça a l'air de vous parler tout ça, Valérie.
Bah, évidemment, Brigitte, oui. Mais voilà, quel sens effectivement après tout ça, après tout ce vécu, comme Michel l'a si bien décrit. Oui.
Ce vécu, il appartient à ce qui vous a constitué, qui s'appelle aussi votre passé. Mais je le dis très souvent, quand on se casse un os et que le cale osseux cicatrise, eh bien, à cet endroit-là, l'os est plus solide que tout le reste ailleurs. C'est-à-dire que les vécus qui sont les vôtres, même s'ils ont été douloureux, à partir du moment où ils sont cicatrisés, ils ont constitué de la solidité, de la force. Je ne sais plus qui avait dit « tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Et vous êtes aujourd'hui dans une phase de votre vie dans laquelle c'est devant qu'il faut regarder et qu'il faut capitaliser la force de tout ce que vous avez vécu et que vous savez, de toutes les choses que vous avez pu dépasser, et de mettre ça en place pour vous permettre aujourd'hui de faire quelque chose de votre existence qui soit quelque chose qui vous satisfasse.
J'aurais envie, juste pour conclure, puisqu'on est vraiment en fin d'émission, Valérie, et je le dis pour tous ceux qui nous écoutent, on est toujours en vie, on a traversé des choses difficiles. Si on est toujours en vie, c'est que ça vaut le coup de continuer, et ça veut dire aussi qu'on a été capable de le surmonter.
Ah oui, puis que la mission n'est pas terminée.
Exactement. Et puis, parfois, il faut accepter de reconnaître à quel point ça nous a blessés, à quel point ça nous a fait souffrir. Et à partir de ce moment-là, on peut vraiment se poser sur cette souffrance et en faire quelque chose de plus grand. Merci beaucoup Valérie, merci vraiment Michel Odoul, comme merci toujours, ça nous permet à tous d'avancer justement sur ce qu'on a vécu et d'aller plus loin encore. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne. Demain, on sera avec Christophe Médici. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, on va tordre le cou à notre saboteur. Il y a du boulot là aussi.
Il y a du travail.
À demain.
Sud Radio, ailleurs, en DAB+.
Sud Radio.
Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs sans potes. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin, alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux. Mais y'a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles. C'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là. Une bougie, le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut, le bonheur, oui. On le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit, le bonheur, non. Il fait pas de bruit. Non, il n'en fait pas. C'est con, le bonheur, oui. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est là, mais il est là. Le bonheur, il est là.